Nous continuons la petite série sur le livre de Philippiens. Et aujourd'hui, j'ai le tranche de chapitre 2, 19 jusqu'à 30. Oui. Et j'ai donné un titre, Mission en famille. Simple. Il est là. Non. Ah, non, c'est pas ça. Pardon. Ok. Le problème, des fois, quand nous prenons un petit parti d'un livre, on oublie le reste. Mais toutes les verses avant et après sont toujours valables. C'est difficile de juste dire les choses dans cette partie, mais c'est nécessaire de penser sur les parties avant aussi. Je vais commencer par lire le texte pour aujourd'hui. C'est Timothée et Épaphrodite. C'est oui, difficile. Avec confiance dans le Seigneur Jésus. J'ai bon espoir de vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être reconforté moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Il est le seul à prendre part à mes préoccupations et à soucier réellement de vous. Toutes les autres s'inquiètent seulement de leurs affaires personnelles et non de la cause de Jésus-Christ. Vous savez vous-même comment Timothée a donné des preuves de sa fidélité, comme un fils avec son père. Il s'est activé avec moi au service de la bonne nouvelle. J'espère vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai la certitude fondée dans le Seigneur que j'irai moi-même vous voir bientôt. Il continue. J'estimais nécessaire de vous renvoyer notre frère Épaphrodite, mon compagnon de travail et de combat, lui que vous m'aviez envoyé pour m'emporter l'aide dont j'avais besoin. Il désire beaucoup vous revoir tous et il est préoccupé parce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et bien près de mourir. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, pour que je n'éprouve pas une tristesse encore plus grande. Je me sens donc d'autant plus pressé de vous l'envoyer, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que ma propre tristesse disparaisse. Ainsi, accueillez-le avec une joie entière, comme un frère dans le Seigneur. Vous devez avoir de l'estime pour des hommes tels que lui, car il a été prêt de mourir pour l'œuvre de Christ. Il a risqué sa vie pour m'emporter l'aide que vous ne pouviez pas m'emporter vous-même. Paul parle de Timothée avec beaucoup d'affection. Timothée a converti par Paul et a appris et étudié sous sa direction. Paul a choisi Timothée pour travailler avec lui en raison de son caractère, très semblable au sien. Timothée était prêt à tout sacrifier pour l'Évangile, pour le Christ. tout comme Paul. Il n'était en aucun cas égoïste et était un excellent exemple de la manière dont le Christ nous a montré comment vivre en tant que chrétien. Paul décrit même leur relation de Timothée comme celle d'un fils avec son père. Timothée a montré le merveilleux caractère d'un vrai serviteur. Paul est prêt à l'envoyer à l'église de Philippe malgré ses propres besoins et sait que Timothée imite les leçons que le Christ a enseignées. Paul sait que l'église de Philippe a grandement besoin de l'aide et de soutien, ce qu'il ne peut évidemment pas donner en ce moment. Il est toujours en prison. Deuxièmement, Paul parle de Épaphrodite comme d'une deuxième personne à visiter. Il avait en fait fait partie d'un cadeau de l'église de Philippe, avait fait à Paul. Il est venu pour aider Paul avec, on pense, argent, c'est un cadeau. Épaphrodite était très aimé par l'église de Philippe, comme en témoigne l'intérêt qu'il lui porte lorsqu'il est tombé gravement malade. Il a fallu mourir en rejoignant Paul. Il a presque sacrifié sa vie pour attendre Paul à l'aider et l'aider alors que les habitants de Philippe étaient incapables de se rendre auprès de Paul. Paul mentionne également qu'il est un homme à honorer pour la façon dont il a failli mourir pour l'œuvre du Christ. Paul a de nouveau constaté que les besoins des Philippiens étaient plus grands que les siens et qu'il était préférable de leur envoyer Épaphrodite. Ce qui est commun à ces deux hommes, c'est le caractère et le comportement. Ils ont saisi les grandes lignes de la mission de Christ et ont renoncé presque intérieurement à leur vie pour Christ. Ils ont un cœur de serviteur et se donnent au-delà de leurs propres besoins. Tout comme Paul. De toutes les personnes que Paul aurait pu penser à envoyer, ils ne connaissent que deux. Que deux avec ce caractère. Paul exhorte l'église de Philippe à être comme Jésus et à suivre son exemple. Cependant, pour les aider à vraiment saisir cet exemple, il voulait leur envoyer deux personnes afin qu'ils puissent le comprendre dans leur réalité. Paul avait bien compris la mission de l'Église, la grande commission, comme nous l'appelons souvent. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisent au nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur apprennent à observer tout ce que vous avez prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous avez souvent à des enseignements sur la Grande Commission. Je n'ai donc pas d'intention d'entrer dans le détail, mais je vais souligner quelques points clés pour comprendre les actions de Paul et pourquoi elles sont pertinentes aujourd'hui. Premièrement, allez et faites le disciple de toutes les nations. Et en tant qu'Église, nous sommes appelés à être envoyés. L'Église n'a pas construit pour que nous restions assis dans un endroit comme ça. Nous sommes appelés à l'action pour aller. Nous sommes appelés à aller dans tout le monde et à faire des disciples de toutes les nations. Les envoyés peuvent être différents. Certaines personnes peuvent être envoyées dans la communauté où nous sommes maintenant, ou peut-être à travers le pays, ou pour aider et soutenir les autres églises comme David et Véronique font aujourd'hui à Genève, ou pour arriver en France comme moi. L'autre mot clé ici est disciple. Je sais que nous avons beaucoup de prédications sur ces sujets et je crois que vous connaissez tout sur le sujet. Le mot disciple vient d'un mot grec, mathétès. Il signifie en fait apprenant et adhérent. Apprenant et adhérent. Et ça signifie quoi? Adhérent, c'est quoi? Cela signifie imitateur de maître. Imitateur du maître. Imitateur de l'enseignant. Lorsque Jésus a appelé les disciples, souvenez-vous la phrase qu'il a utilisée. Venez et je vous enseignerai à devenir des pêcheurs d'hommes. Pêcheurs, pardon. Oui. Ils ont été choisis parce qu'ils étaient capables d'enseigner. Jésus ne cherche pas des personnes, des experts dans les Écritures et les lois de l'Église. Il recherche des personnes ouvertes à l'enseignement, des voix du Seigneur, qui pourraient ensuite enseigner les autres. Ceci m'amène à le deuxième point concernant la Grande Commission. Apprenez-le à observer, observez tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Pour en revenir à la signification du mot disciple, nous devons aider les disciples à être des imitateurs du Christ. Le Christ était l'exemple, et il a montré l'exemple dans sa vie quotidienne et à travers ses enseignements que chacun de nous devrait imiter. Notre envoi consiste donc à faire des gens des disciples. Nous sautons pour leur enseigner les voies de Jésus, pour leur enseigner l'Évangile et pour les enseigner et les préparer à sortir également. Cela ne signifie pas que nous avons toutes les réponses aux que nous ne sommes pas faits, mais nous sommes enseignants. Ce qui nous a été enseigné et réveillé par le Christ. Pour en revenir maintenant à notre histoire, Paul met en pratique ici exactement ceci. Pour la fonder, l'église de Philippe, et d'après le texte, il a un grand amour pour cette église et ses membres. Ils comprennent leur position et leurs besoins. Il est clairement préoccupé par le sort et tient à ce qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Sa lettre n'est pas seulement une lettre de « Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, j'espère tout va bien. » Non. C'est une lettre d'orientation d'espoir. Il a une relation avec ces gens et c'est important. C'est une lettre d'instruction, d'enseignement. Il a un cœur pour les gens. Il enseigne à travers sa lettre comment ressemble davantage à Christ. Et il explique, comme Pierre a fait il y a 2 semaines, exactement ce que cela devrait être et à quoi il devrait ressembler. Il explique que peut ressembler au Christ. Ils doivent être désintéressés, pas égoïstes. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on vous enseigne quelque chose, il est parfois plus facile de saisir ou de comprendre l'enseignement en ayant un exemple visuel qu'en lisant simplement le texte. C'est facile de lire la Bible, mais souvent d'avoir un exemple, c'est plus facile d'apprendre. Paul a bien compris cet aspect. Et voici que nous révérons à nos amis Timothée et Épaphrodite. Paul enseigne à l'église de la nature de serviteur du Christ. Près de lui, il avait 2 amis qui incarnaient littéralement cette nature, exactement comme le Christ. Paul leur a donc essentiellement enseigné la nature de serviteur et expliqué comment le Christ l'avait été, mais il a poursuivi en disant « Pour que vous puissiez être vraiment transformés en personnes qui ont un cœur de serviteur, je ne veux pas que vous manquiez cet enseignement. Je vous envoie 2 personnes que j'aime et je sais que vous les aimez aussi. Et ils ont le meilleur exemple de cela que je puis trouver. Je veux vous les envoyer, voyez, pour qu'elle puisse vous servir de modèle, pour que vous puissiez voir par vous-même et que vous compreniez ce que c'est que d'avoir un cœur de serviteur et que vous deveniez vous aussi des serviteurs. Je l'envoie à 2 personnes qui aient le bon comportement pour ça. Je ne veux pas parler beaucoup plus de l'aspect de cœur de serviteur. Je pense que Pierre l'a suffisamment couvert. Je voudrais cependant ajouter une petite anecdote sur la servitude. Dans mes recherches pour la prédication d'aujourd'hui, je suis tombé sur une histoire d'une église aux États-Unis où cette église n'a qu'une seule entrée dans le bâtiment et au-dessus, cette porte est écrite la phrase « Entrée du serviteur. Servant's entrance. J'imagine chaque fois entrant dans le bâtiment et regardant cette panneau au-dessus de la porte, je suis obligé de penser, ai-je le cœur d'un serviteur aujourd'hui? Quelle a été mon attitude? Suis-je qualifié pour entrer dans l'église par cette porte? Est-ce que je suis vraiment un serviteur? Cette lettre aux Philippiens était, comme je l'ai dit plus haut, un être de soutien et d'encouragement à l'église, avec laquelle il avait une relation. Dans ce cas, Paul était en fait responsable du démarrage de cette église à Philippe. Sa relation ne s'est pas arrêtée là et il a continué à le soutenir et lui rendre visite à fille de temps pour l'aider à se développer et pour continuer à l'enseigner quand elle a en avait besoin. Il avait une relation forte avec cette église. Il avait des relations avec les autres églises, bien sûr, et nous avons vu ça dans quelques livres dans la Bible. À l'occasion, comme cette fois-ci, les églises envoyaient des cadeaux à Paul pour l'aider lui aussi dans sa mission. Ce n'est pas toujours Paul qui donne, mais l'Église qui donne à Paul. Même si elles étaient une Église pauvre, dans le cas de Philippe, ce n'était pas une grande Église avec beaucoup de monnaie, c'est une Église pauvre. Mais elles lui envoient aussi Épaphrodite pour l'aider et le servir. Ils ont donné quelque chose de précieux. Ici à Marguerite, notre Église n'est pas seule. Oui, nous sommes notre propre association et nous sommes une Église charismatique, évangélique, indépendante. Mais aucune église ne peut être seule, ne peut se souffrir à elle-même. En préparant cette journée, je me suis souvenu de l'histoire de la grenouille dans une casserole d'eau bouillante. Ouais, c'est un grand départ de l'église. Je crois beaucoup d'entre vous bien connaissent l'histoire. Mais c'est important de comprendre. Cette grenouille a donc été placée dans une casserole sur la cuisinière. L'eau était agréable et fraîche et la grenouille était heureuse. Ils ont allumé la poêle et l'eau a commencé à chauffer. Et la grenouille était heureuse car la grenouille ne remarque pas l'augmentation de la température. Je ne vais pas terminer l'histoire, mais j'espère que vous comprenez où elle veut en venir. Oui, c'est une histoire un peu drastique. Mais c'est un bon exemple. Si vous êtes seul, tu ne comprends pas la température dans l'environnement. Elle ne sait pas que la température de l'eau augmente ou même qu'elle est à un niveau nuisible. Il est parfois nécessaire d'avoir un apport extérieur pour nous aider à vérifier la température de l'eau. Il en va de même pour nous ici dans l'Église. Nous ne pouvons pas faire cavalier seul et nous apprécions l'apport des autres personnes avec lesquelles nous sommes en relation. C'est pour cette raison également que nous sommes membres d'un groupe d'église de New Frontiers et plus particulièrement de New Ground. Nous appelons cela une famille d'église. Et tout comme les familles, nous avons différents types de relations avec les églises, avec chaque membre de cette famille, nous avons des types de relations, mais nous développons les relations avec eux. Nous ne sommes pas seuls. En tant que les responsables dans l'Église, nous parlons fréquemment avec les autres églises et les soutenons dans leur activité. Cette semaine encore, nous avons rencontré George T. pour parler de l'Église. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons une relation avec les autres églises. Et nous avons une valeur sur la vie, le soutien des autres églises sur nous. Et les autres églises ont la même valeur de notre soutien. Aujourd'hui, David et Véronique, comme nous avons déjà dit, sont à Genève pour prêcher dans l'église là-bas. Farid s'est également rendu récemment aussi. Lorsqu'il y a un besoin, la famille des églises envoie des personnes pour aider et soutenir les différentes églises. Nous avons une relation forte aussi et de longue date avec l'église d'Alès. C'est la même chose là-bas. Nous avons une forte relation. Nous ne sommes pas seuls. C'est grâce aux relations que nous entrons les uns avec les autres en tant que l'église, au groupe des églises, que nous pouvons nous envoyer et nous soutenir mutuellement. Comme Paul le fait. En tant que responsable d'une église, vous n'allez pas laisser entre n'importe qui dans votre église pour vérifier la température de l'eau. C'est avec une relation. Une phrase que j'ai appris en Afrique du Sud parle de l'amitié avant la fonction. Apprenez à vous connaître, même au sein de l'Église, avant de travailler ensemble ou d'intervenir dans la vie de l'autre. C'est relation avant tout. C'est tellement plus précieux. Ainsi, lorsque nous envoyons des personnes à Genève, par exemple, nous essayons, en tant que l'Église, d'envoyer des personnes qui répondent à leurs besoins dans le temple où ils se trouvent. On n'envoie pas n'importe qui, mais les gens qui répondent à les besoins de l'Église. L'apport apostolique dans l'Église est la même. Nous invitons des personnes à partir des relations que nous entrons dans la famille d'Église à laquelle nous appartenons et au-delà, et grâce à ces relations, nous pouvons faire entrer des personnes dans l'Église. Parce que l'Église est précieuse. Chaque personne dans l'Église est précieuse. Et c'est avec ce type de relation que nous trouvons les personnes qui répondent à nos besoins. Nous sommes appelés à une mission qui consiste à faire des disciples de tous les peuples, dans toutes les nations. Nous commençons ici, dans notre propre Église. Mais notre mission est aussi d'envoyer chacun d'entre vous, en mission. Ce terrain de mission peut être à côté de l'église, dans l'école, par exemple. Il peut être aussi dans votre groupe de vie. Il peut aussi se trouver dans une église ou une ville très éloignée d'ici. Tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Mais nous avons tous la même mission. Nous devons aider les gens à imiter les voies de Christ, à vivre ce qu'ils apprennent. Pour votre sécurité et celle des églises, nous travaillons en relation avec d'autres églises. Et grâce à ces relations, nous sommes en mesure de travailler dans d'autres églises pour soutenir et enseigner comme nous le faisons avec l'apport apostolique dans l'église, par exemple. L'événement date du week-end dernier s'est également déroulé au sein de notre famille d'église. Le week-end de jeûne, c'est exactement la même chose, la famille d'église. En tant qu'église, nous envoyons les meilleures personnes que nous avons pour aider le meilleur élément, à soutenir l'église ou l'activité. Et lorsque nous avons un besoin, ils envoient aussi le meilleur élément. Ce n'est pas seulement l'envoi des meilleures personnes, mais c'est l'envoi des meilleures personnes qui peuvent répondre à ce besoin, à ce moment-là. Cela signifie que nous pouvons tous nous qualifier pour faire partie de cette mission à laquelle le Christ nous a appelés. Aucun d'entre nous n'est laissé de côté. Et quand quelqu'un part en mission, l'Église part avec lui. Oh, vous êtes le corps de Christ et ses membres individuellement. Cela vaut aussi bien pour l'Église individuelle que pour l'Église mondiale, y compris notre famille d'Église. Pour l'équipement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'homme parfait, et à la mesure de la statue de la plénitude de Christ, afin que nous ne soyons plus d'enfants ballottés et importés à toute vente de doctrine, par la ruse des hommes, par l'hostie d'un complot trompeur, mais que disons la vérité, dans l'amour, nous grandissons en toute chose vers celui qui est la tête, le Christ, à partir duquel tout le corps, uni et soudé par ce que chaque joint fournit, selon l'action efficace par laquelle chaque partie apporte sa part. Chaque partie apporte sa part, provoque la croissance du corps pour son édification dans l'amour. Je vais m'arrêter ici. Le plan de Dieu est que les chrétiens soient activement impliqués dans l'Église de Dieu, qu'ils servent et grandissent ensemble en soutenant la prédication de l'Évangile et la formation de disciples de toute la nation. Merci.